Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous poursuivons sur France Culture cette nouvelle série PMA-GPA, les différences, avec ce soir l'éthique pour tous. Et pour en parler, nous sommes en compagnie d'Emmanuel Hirsch, professeur des universités, président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique à Paris-Saclay. Bonsoir. Vous avez écrit une tonne de livres, je dois dire, et le dernier que j'ai parcouru, le traité de bioéthique, enfin le tome 4 du traité de bioéthique, que vous faites bien sûr en collaboration avec un certain nombre de participants, est un peu centré sur les nouveaux territoires de la bioéthique. Alors certes, j'aimerais vous poser plusieurs questions. D'abord, comment vous êtes arrivé là, dans cette situation clé de la bioéthique, permanente, hein, vous n'êtes pas, ça fait déjà un certain nombre d'années, que l'assistance publique d'abord vous a confié l'espace éthique de l'assistance publique, puis vous avez agrandi cet espace éthique, ouvert à tous, hein, ouvert aussi bien aux médecins, au personnel, quel qu'il soit, et vous avez donc développé des actions concertées, démultipliées, ouvert à la réflexion. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce choix ?
Le choix, c'est un choix militant, c'est pas de l'éthique académique. Il y avait les années SIDA, avec la révolution que ça induit dans le domaine de la santé, la redéfinition de légitimité, la prise de parole, voire de pouvoir de la personne malade, qui veut être reconnue dans son expertise. Il y a eu les années aussi des soins palliatifs, avec une nouvelle approche du soin. Qu'est-ce que c'était soigner dans un contexte qui devenait très technique, biomédical, et savoir avec la bioéthique. Il y a eu donc une révolution, et moi j'ai mis en œuvre, au sein de l'assistance publique au départ, un espace éthique qui n'était pas un comité d'éthique. C'était pas dire l'éthique, c'était pas se prononcer sur l'éthique, c'est animer le débat, essayer d'identifier de manière un peu anticipatrice les vraies questions de l'éthique hospitalière et du soin. Et le modèle a été repris d'ailleurs dans une loi de bioéthique en 2004, puisque chaque région aujourd'hui est dotée d'un espace éthique, on en parlera puisqu'il a été intervenant par rapport à la révision de la loi de bioéthique actuelle, mais notre approche est ouverte à la cité, c'est pas uniquement des professionnels, ce sont aussi des représentants d'associations ou des personnes malades. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, j'incite les auditeurs de France Culture qui vont sur le site de France Culture d'aller aussi sur le site de l'espace éthique, vous verrez que la totalité des initiatives qu'on développe aujourd'hui est en partenariat avec la personne qui vit la maladie et qui en dire quelque chose. Et ça a à voir aussi avec le débat de la bioéthique dont on va parler. Donc c'est tout, sauf une instance décisionnaire, et elle évolue. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir de la même manière que le président de la République, avant qu'il y ait ce débat de bioéthique, dans le cadre des révisions de la loi de 2011, a dit qu'on doit s'ouvrir aux nouvelles technologies, donc changer de la bioéthique d'hier pour aller à la bioéthique de demain. De la même manière, on est en train d'évoluer en tant qu'espace éthique et de nous adapter au fait qu'il y a du numérique, qu'il y a de nouvelles demandes, de nouvelles formulations.
Et alors, qu'est-ce que votre objectif premier, si vous aviez le choix là, de dire comment on va se développer, c'est quoi ? Pour toucher tout le monde ?
Notre objectif premier, c'est d'abord de travailler en réseau, en lien avec les autres.
Les autres espaces éthiques ?
Pas les autres espaces éthiques, les autres, c'est toutes les entités dans la société qui ont à dire par rapport à nos responsabilités en termes notamment de vulnérabilité par rapport à la maladie, mais également de vulnérabilité sociale. C'est un lieu finalement de sensibilité à un certain nombre de questionnements. Il y a l'espace éthique, il ne s'occupe pas que de la santé, il s'occupe également du médico-social. On est également à l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neurodégénératives, donc on travaille la maladie d'Alzheimer. Vous avez au niveau de la médiatisation des événements, on le voit aujourd'hui, les grandes questions de bioéthique, assistance médicale à la procréation, neurosciences. Mais vous avez au quotidien des gens qui vivent la maladie et qui attendent une réponse sociale en termes de solidarité, en termes de valeur de société, pour pas dire de civilisation. Et quelquefois, ils se retrouvent pas dans un débat un peu grandiloquent, un peu distancé de la réalité. Donc nous, on doit être les médiateurs entre une réalité humaine sensible, avec des demandes extrêmement fortes, et on a parlé il y a quelques semaines des proches, par exemple. Qu'est-ce que c'est être le proche, la personne auprès d'une personne vulnérable dans la maladie? Qu'est-ce que c'est être confronté quand on a un cancer à la complexité de décision avec les évolutions en termes de thérapeutique, hein, puisque quand on aborde, par exemple, des thérapeutiques ciblées, tout ce qui se met en place aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'innovation lorsqu'on est malade? Bref, il y a tout un ensemble d'éléments, mais vous avez d'autres éléments, et j'en termine là-dessus, parce que quasiment consacrer une émission à l'espace éthique, mais vous avez des éléments aujourd'hui qui sont quand même dans toute la filiation des années SIDA, quand les gens revendiquaient le droit de vivre avec la maladie. Pas de vivre malade, mais avec une maladie. C'est-à-dire avoir des droits de personnes, notamment quand on est jeune ou qu'on a la maladie de Parkinson, pouvoir préserver son emploi, avoir une vie familiale stabilisée.
Le droit à l'oubli.
le droit à l'oubli en matière de cancérologie ou d'autres maladies, pour pas avoir le préjudice supplémentaire, la seconde peine. Non seulement on a été malade, on en a guéri, par exemple de cancer.
Mais on est estampillé comme voilà, ça et on peut pas faire ceci,
notamment avec
cela.
Les assurances. Donc vous avez des dimensions politiques, un espace éthique, c'est un lieu, à mon avis, de citoyenneté, qui honore un certain nombre de questions qui ne sont pas toujours les questions prioritaires de la société. Sauf que si demain vous avez un proche qui a une maladie neurodégénérative, qui a une maladie d'Alzheimer, et que vous posez, ça a été dans l'actualité ces dernières années, la question des EHPAD, quel établissement. Mais si vous dites aussi comment vivre au domicile lorsqu'on a quelqu'un qu'on veut accompagner au domicile, comment aborder la question de la fin de vie autrement que d'une manière législative, comment aborder toutes ces questions frontales qui sont des questions d'humanité, qui sont aussi des questions, à mon avis, philosophiques, qui sont des questions anthropologiques, qui sont des questions éthiques. Donc nous sommes un lieu, j'allais dire, carrefour, et je crois qu'on a assez bien servi jusqu'à présent les missions qui nous ont été confiées. Je pense qu'on a acquis une notoriété qui est assez indéniable. On a surtout développé un nouveau modèle qui n'est pas celui de comité d'éthique. On parlera des comités d'éthique. On est un espace. Et j'incite celles et ceux qui le souhaitent à venir vers cet espace. Il n'y a pas un événement, et même par rapport aux états généraux de la bioéthique auxquels on a participé, il n'y a pas un événement où on n'est pas attentif au fait d'avoir une représentativité de la société. Donc on est un lieu de la démocratie.
Alors c'est délicat, l'éthique. C'est quand même très délicat. Votre expérience le prouve. Et j'étais très surpris de voir que vous avez travaillé dans une fabrique de porcelaine.
Oui, chacun a son itinéraire. Moi, je me suis pas a priori lancé dans l'éthique pour en faire une profession.
Non, c'est ce qui me permet. Non, mais c'est la délicatesse de la porcelaine.
Non, mais vous êtes extrêmement juste et subtil, René Friedman. La porcelaine, pour moi, c'est aussi la symbolique de la fragilité et de la force. Et voilà. Il n'y a rien de plus résistant que la porcelaine. C'est aussi la transparence, hein, la porcelaine. C'était la créativité, c'est aussi l'innovation. Et puis, c'est aussi quelque chose qui apporte à l'harmonie du quotidien, d'avoir des objets qui étaient réalisés d'une manière, j'allais dire, avec du goût, avec un souci de l'autre. Bon, la symbolique de la porcelaine, j'aurais pu continuer dans la porcelainerie. Je suis pas sûr que j'aurais échoué, parce que j'étais vraiment très désireux de continuer dans ce domaine. Mais je faisais mes études de philosophie. Bon, à un moment donné, il y a eu la rencontre avec un philosophe, Claude Bruyère, qui était un des premiers philosophes qui s'est investi sur l'éthique médicale. Et donc, j'ai fait mon doctorat sur ce sujet. Et par concours de circonstances, je me suis retrouvé dans cette maison pendant une dizaine d'années à France Culture.
Oui, vous êtes à France Culture.
Voilà, 83, si je raconte
98.
Toute l'histoire, c'est pas le plus important, mais j'en arrive.
Non,
au fait que France Culture m'a énormément frappé comme lieu d'éducation. C'était pour moi mon université. C'était la curiosité de l'autre et aussi l'exigence de comprendre, de savoir, sans a priori. Et pour moi, l'université, mon université, ça a été France Culture. Quand je reviens ici, je reviens dans mon université. J'écoute régulièrement France Culture. C'est-à-dire, c'est une ouverture sur le monde. Et France Culture a prolongé, a persisté. Et je trouve que c'est assez fort aujourd'hui dans le contexte médiatique. On est dans les approfondissements et on est dans le pluralisme des idées. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de bioéthique, d'abord, soyons attentifs à la diversité des points de vue, à la diversité aussi des cultures. Parce que quand vous abordez la bioéthique, je dirais, à la française, vous êtes quelque peu ridicule. La bioéthique, c'est pas à la française. C'est une dimension d'abord internationale, notamment au niveau scientifique, puis une responsabilité vis-à-vis des pays qui ne se posent pas des questions aussi sophistiquées parce que leur quotidien, c'est comment on vit ou comment on survit. Donc si vous n'avez pas cette ouverture sur le monde, merci à France Culture à cet égard de m'apporter dans mon quotidien cette ouverture, vous êtes très étriqué dans votre pensée, et vous n'êtes pas dans des positions, vous êtes dans des postures, et dans des postures craintives de l'autre. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de rencontrer l'autre, y compris en bioéthique, quand son point de vue fondé ne rencontre pas l'opinion générale.
Alors Emmanuel Hirsch, ça ne vous a pas échappé que le rapport que j'ai fait avec la fabrique de porcelaine où vous avez travaillé, c'est aussi parce que je trouve, et vous l'avez très bien dit d'ailleurs, c'est une image en même temps de force et de fragilité. Et quelque part, dans la réflexion éthique, ce qui émerge, c'est la préoccupation du plus vulnérable. Et on le voit très bien dans tous les travaux que vous avez faits, enfin vous et tous vos comparses, j'ai envie de dire, que ce soit, je dirais, enfin la fragilité de l'humain face à son destin qu'il ne maîtrise pas. Est-ce que vous avez l'impression, après 20 ans d'implication dans ce domaine, que nous avons progressé vis-à-vis de la prise en compte du plus vulnérable ?
Du plus vulnérable, j'ai le sentiment qu'on est une société qui a des valeurs fortes, et quelles que soient les contestations qu'on fait, on est quand même auprès des vulnérabilités. On travaille par exemple toutes les questions autour de la personne polyhandicapée. On travaille les questions des vulnérabilités dans le vieillissement. Alors même si la société a besoin d'apprendre qu'aujourd'hui on peut vivre très très longtemps, c'est des évolutions qui doivent être accompagnées à la fois culturellement, intellectuellement, mais également politiquement par des choix. J'ai l'impression en tous les cas qu'il n'y a pas une indifférence à ces questions. Le grand danger, me semble-t-il, dans le débat actuel, c'est d'être très fasciné par toutes les questions autour de l'intelligence artificielle, de l'homme numérisé, et on risque d'abandonner quand même une certaine conception de ce que sont nos valeurs d'humanité. Le 10 décembre prochain, on va célébrer le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et on va faire un certain nombre d'événements à l'espace éthique, on se pose la question, est-ce que les valeurs portées par la Déclaration universelle de Rome, entre une pertinence, une capacité d'interrogation, voire de prescription dans un domaine comme les questions autour de la bioéthique dont on va parler. N'oublions pas, 48, c'est une date importante, 47, c'est le code de Nuremberg, c'est la Shoah, c'est les expérimentations. Alors si vous regardez les évolutions dans le domaine, par exemple, de ce qu'a été le code de Nuremberg, on peut dire qu'au niveau international, des règles extrêmement précises dans la recherche biomédicale existent. Mais si vous regardez la bioéthique aujourd'hui, vous voyez une dérégulation entre des pays qui ont des valeurs fortes, notamment au niveau de la recherche, avec ses applications sur la personne humaine, et puis des pays qui sont peu préoccupés par ces valeurs parce qu'ils sont dans un autre contexte culturel, je pense par exemple aux pays asiatiques. Donc il faut prendre en compte aussi l'aspect interculturel. Mais pour répondre précisément à votre question, j'ai l'impression que notre société est faite que de vulnérabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde nous parle en termes de souffrance, de reconnaissance, de sa vulnérabilité, de son identité. Il y a une réflexion de fond à mener, y compris d'un point de vue politique. Parce que le fait de nier la personne dans son identité, dans sa vulnérabilité, dans ce qu'elle est, fait qu'elle prend quelquefois des positions qui sont extrêmement, réactives par rapport notamment à la démocratie. Donc, c'est pas une émission politique et j'ai pas la compétence développer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, les enjeux de l'éthique hospitalière et du soin, les enjeux de la bioéthique, sont pas des enjeux de réflexion intellectuelle sur comment penser le bien, le mal. C'est des questions pour moi de démocratie. C'est-à-dire, nous sommes au rendez-vous avec notre démocratie. Et qu'est-ce que notre démocratie va produire dans les mois qui viennent au niveau de valeurs, au niveau de repères qui nous prémuniront d'une certaine forme de dérive? Et la dérive, pour moi, je la vois à travers un certain nombre de prises de position très valorisées, où on a l'impression que demain, on doit réinventer le monde, le réenchanter à travers une science, des technologies, dont on ne voit pas les conséquences qu'elles ont sur nos valeurs profondes.
Donc, est-ce qu'on peut voir les conséquences de quelque chose qui débute à peine? Je pense par exemple au CISO CRISPR-Cas9, je veux dire, sur lequel on voit bien que déjà émergent certains problèmes de l'utilisation qui pourraient bouger d'autres gènes et tout ça. Enfin, je veux dire, il y a une part normale de prise de risque dans toute nouveauté. Le principe de précaution.
Mais c'est vous, René Frigman, qui devrait répondre à cette question. Quand en 82, vous avez participé à la naissance de ce qu'on a appelé bébé un peu éprouvette. Enfin, je veux dire, c'est cette nouvelle conception de l'assistance médicale à la procréation. Vous aviez une finalité, permettre à des couples stériles d'avoir une postérité et de répondre donc à une demande forte en termes de souffrance, mais aussi en termes de valeur. Puis aujourd'hui, c'est vous qui êtes confronté aussi à la question de l'assistance médicale à la procréation offerte d'un point de vue sociétal à des personnes qui ne sont pas en situation de stériliser, si ce n'est en stérilité sociale, et demain à la question de la GPA, de la grossesse pour autrui ou par altruisme. Enfin, on peut prendre des éléments. Donc je pense qu'il y a analysé à la fois les finalités et les conséquences. Mais on est dans une démocratie, à un moment donné, il y a des arbitrages au nom de valeurs profondes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les valeurs principes aujourd'hui dans une démocratie. Est-ce que ce qui est possible, d'une certaine manière, et en toutes circonstances, justifié et, j'allais dire, applicable, sans autre réflexion? Est-ce qu'on peut dire encore non? C'est une question que je me pose.
Oui, c'est la question, c'est est-ce que vous avez l'exemple de limites, finalement, que l'on assume, que l'on s'accorde et que l'on décidera d'appliquer par rapport au champ des découvertes qui se feront? De toute façon,
le traité de bioéthique, le tome 4, c'est le nouveau territoire de la bioéthique.
Exactement.
On en est à 4 tomes et quasiment 230 collaborations. Et le précédent tome, on les avait écrits pour les précédentes lois de bioéthique. Donc c'est une réflexion plurielle. Et qu'est-ce qui m'apparaît de plus fondamental et qui a à voir avec la question que vous m'avez posée avant sur les vulnérabilités? Nous sommes de plus en plus vulnérables aux sciences. est de plus en plus dépendant de logique, d'idéologie, mais également d'enjeux financiers, parce que derrière tout ça, il y a des enjeux financiers. Hein. Je suis quand même attentif quand on nous parle de protection des données, les données qui aujourd'hui les manipulent, qui aujourd'hui les exploitent, quel type de combinatoire derrière tout ça se joue, et qui n'ont rien à voir directement avec notre intérêt en termes de santé, par exemple. Donc aujourd'hui, on est très très vulnérable. Et est-ce que c'est la loi demain qui nous permettra d'être moins vulnérables par rapport à des menaces. Menaces sur qu'est-ce qu'on est en tant que personne, quelles sont les valeurs qui nous sont constitutives, menaces par rapport à des violences faites à la personne, en lui imposant, par exemple, au nom de normes ou d'idéologies, d'évoluer, d'être augmenté, transformé, ne serait-ce qu'au niveau des neurosciences et au niveau de la génomique. Violence également, lorsqu'on est confronté, dans certaines circonstances, la nécessité de choisir est-ce qu'on met au monde un enfant par rapport aux conséquences que ça peut avoir dès lors qu'on pourra anticiper de plus en plus les conséquences d'une mise au monde. Bref, on est finalement dans un champ de responsabilité souvent inédite. Tout à l'heure, on évoquait le grand âge. Quelle société a été confrontée comme aujourd'hui au grand âge? Alors, il y a l'aspect positif, le vieillissement permet d'aller plus loin dans l'existence, mais ensuite, perte d'autonomie, dépendance et responsabilité sociale. La question essentielle aujourd'hui, c'est quel type de responsabilité? Quand vous avez mis en place toute votre démarche dans le domaine de l'AMP, j'y étais sensible, hein, je vous ai suivi, vous me dites 20 ans, c'est pas 20 ans, j'étais quand même plus impliqué bien avant, en tous les cas en termes de réflexion. Et vous avez essayé de mettre en place un dispositif de réflexion. C'est-à-dire rien de ce que vous avez fait n'aurait été faisable si c'était pas accompagné par un dispositif de réflexion. Et ce que j'aimais bien, c'est que vos réflexions étaient pluridisciplinaires. Vous sollicitiez différentes compétences, psychologie, philosophie, éthique, etc. Ça a permis, à mon avis, d'accompagner une évolution. Mais aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'innovation disruptive. On est en rupture par rapport à une espèce de continuité. C'est-à-dire, on voit pas aujourd'hui ce qui peut contenir une certaine forme d'hubris, d'une certaine forme de débordement. Parce qu'on est dans un contexte de compétition internationale. Tout à l'heure, vous avez évoqué mes responsabilités actuelles comme président du Conseil politique de la recherche et l'intégrité scientifique de Paris-Saclay. La question de l'intégrité scientifique, elle a à voir aujourd'hui avec notre débat en matière de bioéthique. La question des connaissances, la question des vérités des connaissances, le devoir des responsables que sont les chercheurs à accompagner l'impact éventuel de la recherche, quel type de débat de société. Donc si je vais au fond des questions que vous posez, on a aujourd'hui à réinventer, me semble-t-il, d'abord une approche de la bioéthique, mais aussi une approche du politique dans des responsabilités vis-à-vis d'humains. Et ce qui me frappe à travers tout ce qui nous est proposé en termes d'évolution, c'est qu'on est face à des situations, pour moi, où l'irrévocable et l'irréversible sont possibles. Vous évoquiez CRISPR-Cas9. Donc depuis qu'on met en place
les cisogénétiques,
on voit au niveau des publications actuelles les conséquences que ça peut avoir, notamment pour les générations futures. Donc on nous parle de respect de la planète, de l'aspect de l'environnement, qui est à mon avis aussi une question de bioéthique, mais quel est le respect aujourd'hui qu'on a pour l'homme? Aujourd'hui, autre élément qui me frappe dans notre réflexion sur la bioéthique, le non-humain, l'animal. Les premières lois de bioéthique, on est dans les années 90, 94, 2004, c'est les précédentes étapes. On ne parlait pas du droit de l'animal comme on en parle aujourd'hui.
Bien sûr.
On ne parlait pas de l'environnement comme on en parle aujourd'hui. Donc les choses évoluent et j'en arrive pour répondre à votre question en disant le champ de la bioéthique doit être repensé. Il doit être réinventé d'une certaine manière et les responsabilités du politique sont reposées. Et là, on va voir dans les mois qui viennent ou des semaines comment le politique va se situer vis-à-vis de ces questions qui sont plus pour moi des questions de bioéthique, c'est des questions d'humanité.
Mais juste un peu de musique après ces paroles.
A million candles burning for the help that never came. want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, I'm ready, my lord.
À penser, René Friedman.
Dans le cadre des émissions Médecine et Santé, nous recevons ce soir le professeur Emmanuel Hirsch, directeur de l'espace régional de réflexion éthique de l'Île-de-France. Et nous allons parler de PMA et GPA, après avoir, dans cette première partie, eu une vision un peu plus globale de ce que c'est que l'éthique, les problèmes que ça pose en général dans notre société. Mais tout d'abord, pourquoi cette chanson de Leonard Cohen, You Want It Darken?
Pour deux raisons. D'abord, Leonard Cohen m'accompagne, c'est probablement le poète et l'interprète qui est le plus présent dans ma pensée aujourd'hui. Donc, en hommage à la personnalité qui pour moi représente beaucoup. Également pour le texte. D'abord, le Hineni me plaît beaucoup. Abraham, on voit dans la Bible, Jacob, Moïse, Hineni, me voici. Et l'interprétation du commentateur Rashi, c'est être présent, être responsable. Donc, comment on est aujourd'hui responsable par rapport au monde et comment on répond d'un appel. Et vous, qui êtes un grand médecin, René Friedman, quand vous avez été un peu transgressif au départ dans votre approche, notamment de l'assistance médicale à la procréation pour des couples stériles, vous avez dit, me voici, je suis présent, j'assume mes responsabilités. Ensuite, en les argumentant. Et donc, je trouve que un engagement éthique, parce que moi, je ne pourrais pas parler d'éthique d'un point de vue spéculatif, mais j'ai l'impression que je suis engagé politiquement, d'une certaine manière. J'essaie de le faire avec retenue et d'une manière modeste, mais c'est un engagement. Donc, le Hineni me plaît beaucoup dans ce texte, mais également le côté noirceur. C'est-à-dire, on est, pour moi en tous les cas, dans tous mes engagements, dans la filiation des Lumières, le XVIIIe siècle, l'esprit critique, la connaissance, le savoir, la remise en cause d'un certain nombre de dogmatiques aujourd'hui. Et l'impression qu'on rentre quand même dans un espace, j'allais dire, d'opacité, pour pas dire d'obscurité. Et je trouve que c'est aussi un des enjeux aujourd'hui du débat. L'obscurité au niveau politique, on voit où ça peut nous mener à des extrémismes. Et quand on parle des années noires, on parle des années obscures. Donc je pense que derrière, et c'est pas anecdotique, les enjeux de la bioéthique qui touchent à l'humain, à nos représentations de ce que nous sommes, quelle société nous voulons, à quoi nous sommes attachés, il y a quand même une dimension politique et quelquefois dans certaines prises de position, et pas de ce que vous pensez, y compris de certains scientifiques, je vois de l'opacité, de l'ambiguïté. Vous savez, dans la Bible, on dit que chaque fois qu'il y a du doute, ça fait qu'il y a Amalek qui vient, le mal qui vient. Donc on est dans ce contexte. Donc je ne ferai pas d'exégèse théologique du texte de Leonard Cohen, mais aussi bien dans le fond que dans la forme, il me semble essentiel.
Eh bien, Emmanuel Hirsch, voilà au moins une présentation pesée, on va dire, hein, de ce très beau, très beau, très belle musique, bien entendu. Pour revenir donc à notre entretien d'aujourd'hui, nous sommes confrontés, je le disais, avec cette définition de la dignité, parce que la dignité des uns n'est pas la dignité des autres, c'est pas si simple que ça, on a l'impression qu'on brasse des mots. La deuxième difficulté, vous l'avez dit, c'est la multiplicité, ce qui est une bonne chose, du débat éthique sous toutes ses formes, mais en même temps, la difficulté à la fin d'avoir une ligne de conduite, c'est-à-dire qu'on peut pas renvoyer dos à dos en permanence et qu'à un moment donné, il faut bien avancer. Et c'est vrai que dans le débat qui est autour de PMA ou GPA, le sentiment que j'ai d'abord, c'est cette irruption qui prend tout le devant de l'écran du mélange des genres. Parce qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir. Je dirais la PMA et la GPA ne sont pas la même chose. La GPA, jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours une femme qui va porter un enfant. Il n'y a pas d'autres alternatives. Donc une femme peut toujours porter un enfant. Personne n'est là pour interdire à la femme de porter un enfant. Sauf que dans l'histoire de la GPA, on croit, et certains proposent, une GPA dite éthique. C'est-à-dire où il n'y aurait pas, ou très peu, on va dire, parce que là il y a un flou artistique, de commercialisation. Or, est-ce que vous ne pensez pas que le problème de la commercialisation du corps, avec le problème des dons d'organes qui en découlent automatiquement et d'autres choses, est un des problèmes clés sur lesquels on devrait avoir une barrière, toujours pour la même chose, pour protéger les plus vulnérables. Car ce n'est pas en donnant la parole aux nantis, ce que j'appelle les nantis, c'est-à-dire eux, ceux qui ont profité du système, voire un journaliste qu'on retrouve sur toutes les chaînes aujourd'hui, qu'on peut comprendre très bien ce qu'il ressent et voire même ce qu'il éprouve, même s'il a eu les moyens financiers de faire ce qu'il voulait. Mais le problème, c'est plutôt de celles qui ont été entraînées dans cette histoire. Est-ce qu'il y a eu une atteinte à leur vulnérabilité ou pas? Est-ce que le principe de la commercialisation du corps, ce n'est pas une atteinte à la vulnérabilité? En un mot, qu'est-ce qu'on peut donner de tout ce débat énorme autour de tous les thèmes de bioéthique que vous avez abordés? Est-ce qu'on a quelques lignes rouges qui nous permettraient à chaque fois et à chaque nouveauté qui va revenir de nous reposer la question? Est-ce que quelqu'un de vulnérable est, risque d'être atteint par telle ou telle démarche? Est-ce que, je dirais, là, on ne perd pas la ligne de considération de l'autre?
D'abord, je trouve que vous avez formulé la question et vous avez quasiment donné les réponses. La vulnérabilité est une question importante. Dans les fondamentaux de la bioéthique, depuis la première loi, 94, avec le code civil, enfin je veux dire, l'indisponibilité du corps, la question de la gratuité, toutes ces questions, l'anonymat, enfin il y a tout un registre, le respect de l'intégrité de la personne, y compris après son décès, toutes ces questions font partie des fondamentaux. Et vous avez une littérature en matière de bioéthique au niveau international tout à fait extraordinaire. Je pense pas uniquement à Oviedo. Vous avez des textes immenses, y compris des textes de l'UNESCO tout à fait fondamentaux sur la relation entre droits de l'homme et bioéthique. Donc il s'agit effectivement aujourd'hui de refonder ces valeurs et de voir quelle est leur pertinence.
Et pourtant, il y a quand même des oppositions dans le monde.
C'est pas ça, c'est que vous avez le problème, une dérégulation générale. Et quand vous abordez la question de l'assistance médicale à la procréation, la question du don d'ovocytes ou de la préservation de la fertilité à travers... c'est vous qui avez développé ces techniques. Hein. Si aujourd'hui, la question aussi de la GPA que dans certains pays, en Grande-Bretagne, avec des règles particulières, aux États-Unis.
Oui, vous savez qu'en Grande-Bretagne, 35% des femmes ont donné leurs ovocytes. Hein. C'est complètement erroné ce qui se passe.
Non, mais vous pouvez avoir, quand vous dites,
c'est pas de la GPA, c'est pas de la GPA éthique.
La GPA éthique, par exemple, il y a des règles dans tous les cas d'encadrement qui font par exemple que quelqu'un qui viendrait de l'étranger n'a pas spontanément accès à la GPA, pour prendre l'exemple en Grande-Bretagne. Deux choses avant de répondre à vos questions. D'abord, j'ai le sentiment que souvent les instances d'éthique accompagnent les évolutions un petit peu comme les unités de soins palliatifs accompagnent une fin de vie. Je ne vois pas, si vous voulez, à part rappeler un certain nombre de valeurs, de règles, etc., je vois plutôt, et on le voit, la recherche sur l'embryon, pour prendre un exemple précis, hein. Il y a eu une loi en 2011, et puis peu de temps après, il y a eu des évolutions. Donc je pense qu'il y a un accompagnement qui est lié aussi au fait que la société s'approprie un certain nombre de connaissances, évolue dans ses repères et ses valeurs. Donc il y a des évolutions, on n'est pas sur quelque chose, j'allais dire, qui est intangible. Uniquement, la question que je me pose, est-ce qu'il y a des fondamentaux, est-ce qu'il y a des intangibles ? Et quand j'écoute, voilà, et quand je regarde la superbe contribution de l'épiscopat à la réflexion sur la dignité, par exemple, face à l'assistance médicale à la procréation, je trouve qu'il y a des fondamentaux au niveau anthropologique qui ne doivent pas être balayés de la main. La question de la filiation ne doit pas être balayée de la main. La question de porter un enfant, enfin je veux dire, c'est-à-dire assumer une gestation, ne doit pas être balayée de la main. Tout un ensemble de questions de fond doivent être posées. Une fois qu'elles sont posées, j'allais dire avec des éclairages argumentés, qui ne soient pas uniquement idéologiques, quel type de conclusion on en tire ? C'est là où je me permettrai juste une observation que j'aurais pu faire précédemment. Moi, je suis pour une refondation de la bioéthique, déjà, que le législateur définisse, quand il parle de bioéthique, de quoi il parle. Ensuite, je serai pour une approche législative sur tout ce qui est recherche et innovation. À mon avis, c'est un deuxième point. Et puis, je suis pour une révision de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades, puisqu'il y a eu des évolutions et qui touchent à la personne malade. Je ne sais pas si la stérilité relève de la maladie, mais on peut dire qu'elle relève de la médecine. Un certain nombre de débats...
Elle relève du mal-être.
Oui, dans tous les cas, elle relève de la médecine dans la capacité d'intervention. La vraie question, c'est beaucoup des questions qu'on aborde, notamment autour de l'AMP ou éventuellement de la GPA, ne sont pas des questions médicales. La question de la fin de vie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a médicalisé la fin de vie, mais intervenir pour la fin de vie d'une personne, c'est pas une question uniquement médicale, c'est une question aussi sociétale, c'est une question de représentation. Donc vous voyez, on a mis de côté tout un ensemble de questions de fond. Et je trouverais irrévérencieux et grave pour la démocratie qu'on révoque comme ça, d'une manière un peu rapide, au nom d'ailleurs d'une compétition internationale, au nom parce que ça se fait ailleurs, etc., qu'on révoque les questions anthropologiques de fond et les conséquences que ça peut avoir sur une société vulnérable. Parce que juste un point, vous avez dit les vulnérabilités, mais les vulnérabilités, elles sont partagées dans la société, y compris aujourd'hui par les médecins qui sont confrontés à des demandes non médicales pour lesquelles ils se disent « est-ce que j'ai droit au niveau de ma conscience de faire valoir mon refus ?» Donc on est dans des questions qui se sont complexifiées. Il n'y a pas de lisibilité et il y a peu de visibilité au niveau international. C'est là où je reproche finalement à l'approche de la bioéthique à la française de ne pas avoir ouvert dès le début, au début de cette année, une grande concertation qui, à travers des colloques par exemple, nous ouvre à comment d'autres pays, en Espagne, aux Pays-Bas, qui sont aussi des démocraties comme nous, comment ils ont abordé les questions les plus délicates. Et je dirais que les questions les plus délicates, soyons honnêtes, c'est pas uniquement les questions d'assistance médicale à la procréation et de GPA. Les neurosciences qui interviennent sur la pensée, qui interviennent sur comment on éduque, enfin toutes ces questions, comment au niveau par exemple de l'intervention très positive sur les personnes atteintes de maladies qui justifient des implants au niveau cérébral. Il y a tout un ensemble de questions de fond, les questions de la génomique, les questions notamment
non,
du...
Non mais c'est clair que...
ce qui est aussi dangereux, si vous voulez, c'est qu'on focalise sur les questions... pour des raisons un petit peu souvent politiciennes, alors que la globalité des questions, une approche un peu plus en termes de fondamentaux, me semblerait justifiée. Et je ne pense pas que ça aura lieu, parce que la réponse, elle sera politique, elle ne sera pas bioéthique.
Non, mais la réponse, elle est politique à un moment donné, parce qu'il faut bien trancher, et on va devoir trancher, c'est-à-dire que dans 6 mois, on ne parlera plus de ça. On attendra 5 ans que ça revienne, parce que la GPA n'aura pas lieu, et qu'il y aura encore des groupes de pression qui essaieront dans la prochaine révision des lois. Mais il faut bien trancher. Dans les 6 mois qui viennent, on va trancher, et après on va l'oublier.
Si on dit on va pas stopper, c'est une pure logique, ça sert à rien d'avoir une réflexion plurielle et un débat de société. Moi,
non,
je dis,
pourquoi
ça mérite.
Mais on pourquoi peut très bien. Il en ressort quand même des points forts. Il y a eu des évolutions. Regardez, prenez l'histoire de l'autoconservation des ovocytes. Par exemple, il y a 3-4 ans, il y avait quand même une majorité de gens qui ne suivaient pas, qui considéraient que c'était... D'ailleurs, il n'y avait pas d'argumentaire. Mais on disait que c'était le dernier carré de l'autonomie de la femme, et donc, dans ce sens-là, on s'y oppose. Aujourd'hui, visiblement, l'idée a fait son chemin, et je reviens à la question que nous discutions, est-ce que c'est délétère ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de vulnérable ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en pâtit ? La réponse, elle est non. Et c'est pour ça que ça va passer. Parce que quand on répond à ces questions de fond, c'est-à-dire est-ce qu'on dépasse des lignes, et si on ne les dépasse pas,
Non, je comprends, on n'est pas au Comité national consultatif d'éthique, vous en avez fait partie et vous êtes une personnalité qui avait compté dans ce domaine. Vous êtes déterminant plus que moi par rapport à ces questions. Mais j'observe juste une chose, c'est que moi je renonce pas à rentrer dans la complexité des questions. Si les questions étaient si simples, bon, il n'y a pas besoin d'en débattre, il n'y a pas besoin d'avoir une concertation. Il faut respecter, à mon avis, les points de vue et les points de vue qui ont des vraies argumentations. On a une responsabilité vis-à-vis, effectivement, du couple demandeur, on a une responsabilité vis-à-vis de l'enfant qui va naître, on a une responsabilité vis-à-vis de la société qui peut être structurée autour de valeurs. Ces questions ne peuvent pas être, encore une fois, renvoyées du dos de la main.
Non.
Et juste un point, si on renonce à poser la question de l'AMP un instant. La question des prélèvements greffe d'organes. Quand le 22 décembre 1976, on a parlé de consentement présumé dans la loi qu'il y avait. Donc les personnes qui ne s'opposent pas sont donneuses. Il y avait déjà au niveau d'éthique une grande décision qu'on a pu avoir. Et quand Jean-Louis Touraine a voulu une extension, vous avez suivi, c'est-à-dire il y avait une bonne pratique professionnelle hein, qui était de demander à la famille si la personne qui ne s'était pas exprimée sur le registre de refus était consentante ou pas. Donc il y avait cette délicatesse parce qu'on n'est pas uniquement dans la fonctionnalité de la rentabilité. Plus on a de greffons, mieux on s'en sort et plus on fait de score dans ce domaine, plus c'est une réussite. Et regardez les conséquences que ça a créé. D'abord, tous les réanimateurs et tous les coordonnateurs de prélèvements se sont élevés contre cette mise en cause de la sensibilité qu'on doit témoigner à la famille dans ces circonstances. Mais vous n'avez jamais aujourd'hui plus d'inscrits dans le registre de refus. C'est-à-dire voilà la conséquence que ça a pu avoir. Donc je dis soyons attentifs, c'est-à-dire aujourd'hui on nous envoie régulièrement les statistiques de l'agence de la biomédecine sur prélèvement d'organes. Aujourd'hui il y a une régression dans le don d'organes. On est à 33,7% en moyenne dans le refus des familles qui ont pu encore s'exprimer parce que encore une fois les professionnels disaient que c'était incompatible avec leurs valeurs que de faire autrement. Mais regardez les conséquences, c'est-à-dire aujourd'hui le registre national automatisé de refus n'a jamais autant de personnes inscrites. Ce que je veux dire, très simplement, c'est qu'il faut respecter chacun dans sa sensibilité, dans ses valeurs, et se dire aussi, même si ça paraît un petit peu anachronique, posons les questions d'une valeur d'une société par rapport à ce qu'elle sera demain. C'est-à-dire, est-ce que la procréation, alors vous avez pu aussi m'ouvrir sur d'autres éléments, quand on voit qu'en Chine, deux souris ont mis au monde un petit sourisseau sans avoir besoin des gamètes masculines, on peut se dire qu'il y aura des évolutions encore plus, j'allais dire, fondamentales dans les années qui viennent, qui feront que nos débats d'aujourd'hui donneront le sentiment d'avoir été préhistoriques et obsolètes. Donc les évolutions, à mon avis, il faut les accompagner, mais vous ne pouvez pas les accompagner sans qu'il y ait des réflexions sur les valeurs constitutives d'une société. Si vous mettez ça en parenthèse, alors à partir de ce moment-là, vous dites qu'il n'y a plus besoin d'avoir des principes, et on est dans un contexte de compétition. Tout à l'heure, vous avez évoqué Marc-Olivier Fogel, qu'est-ce qu'elle a ma famille, sur l'accès à la GPA. Je suis sûr que la plupart des personnes qui l'ont entendu dans les médias se disent je vois pas pourquoi René Friedman est contre la GPA éthique, puisque ça existe et on peut la pratiquer.
Ah non, elle est pas éthique.
C'est ce qu'il dit, et un certain nombre d'intellectuels disent la GPA peut éthique. Tout ça pour dire...
Pour la raison justement que moi je mets en avant le problème de la vulnérabilité des femmes qui sont utilisées au bien-être et au bienfait de certains, comme les esclaves l'étaient pour les grands propriétaires terriens. Si vous prenez les grands propriétaires terriens, bah, automatiquement ils vont être contents de la situation de l'esclavage. Pour les esclaves, c'est pas tout à fait la même chose.
Vous savez pourquoi votre invitation me plaît, votre invitation, parce qu'on voit, comme ça en direct, ce que peut être un débat éthique. C'est-à-dire, on va pas trancher, c'est pas nous. On voit les carences, mais juste un point qu'on a oublié, c'est la dimension d'universalité. C'est-à-dire, lorsque l'on va dans une évolution, quelle qu'elle soit, qu'est-ce qu'on engage au niveau des valeurs d'humanité? Ça a été le débat sur l'euthanasie,
Je suis bien entendu d'accord pour envisager ça, mais on ne peut pas uniquement, l'éthique ne peut pas accompagner. Je veux dire par là, elle est là pour accompagner.
Non, mais c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que font la plupart des instances éthiques aujourd'hui. Elles font de l'accompagnement.
Donc on doit trancher à un moment donné, peut-être momentanément.
Non, mais pas momentanément. Si vous tranchez sur les questions de fond, on est dans l'irrévocable et inversé. On ne fera pas marche arrière. Dites-moi où on a fait marche arrière. On voit qu'on ouvre des portes. Mais par rapport aux questions de bioéthique, même si ça peut aussi avoir avec la bioéthique et notre conception de l'humain. Mais ce que je veux dire par là, et vous le savez mieux que moi, parce que c'est votre pratique au quotidien, c'est ce qu'on appelle, et je reprends pas le mot immédiatement, la pente glissante. On sait que chaque fois qu'on ouvre une porte, chaque fois qu'on cède sur une question sans avoir abordé dans sa profondeur et dans sa complexité, et toute situation est complexe, on arrive finalement à quelquefois des chemins inattendus et qui sont quelquefois péjoratifs. Juste un dernier point par rapport à ces questions. Je pense que le grand danger de la loi, c'est la la symbolique qu'elle a, l'autorisation qu'elle donne. Et je pense que beaucoup des questions sensibles qu'on a évoquées doivent être des questions prises d'une manière singulière. Vous voyez, vous avez le débat sur l'exception d'euthanasie, l'avis 63 du CCNE. Je pense que ce qui est dramatique, me semble-t-il, dans une loi, c'est de généraliser sur des questions qui sont souvent très individuelles. C'est des parcours de vie, des histoires individuelles, des attentes individuelles. C'est là où il y a une difficulté.
Vous avez un point quand même, depuis 40 ans, en France, il n'y a pas de commercialisation de la reproduction. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que ce sera l'avenir, mais je veux dire comme quoi, de temps en temps, une limite et une barrière.
Non, mais vous dites, y a pas, vous êtes naïf, ou vous voulez faire valoir.
J'ai dit en France.
Non, mais en France, mais les gens qui sont en France aujourd'hui, oui. Ils accèdent facilement. Mais c'est ça le principe de réalité, c'est aussi l'accès aux origines pour les personnes qui sont nées, comme vous le savez.
Oui, mais bon, je reprends l'idée de la peine de mort. Vous pouvez pas. Oui, bien sûr, ça serait mieux qu'il y ait une abolition de la peine de mort partout dans le monde, mais ce n'est pas le cas. Ça gagne point par point. Donc, je dirais, la bataille éthique, elle ne fait que commencer sur des principes fondamentaux.
Mais quand vous dites peine de mort, il faudrait avoir un débat. C'est des valeurs d'humanité, c'est des grands principes, c'est les valeurs auxquelles on est attaché qui ont fait que ça a été une conquête. Là, la vraie question, quelles sont les conquêtes qu'on a en matière de bioéthique?
C'est le respect du plus vulnérable.
Non, mais ça c'est dit d'un point de vue théorique, mais dès lors que vous dites il faut accompagner la science dans ses évolutions et que finalement il n'y aura aucune rétention et aucune possibilité non seulement de faire marche arrière, mais déjà d'agenamento, c'est-à-dire d'arrêt de l'évolution, on n'est pas, à mon avis, dans la vision que vous lorsque vous évoquez la peine de mort. Ça a été une conquête.
La vraie conquête
politique aujourd'hui, c'est de dire il y a des choses qu'on ne fera pas.
Et notamment
dans le domaine des neurosciences.
C'est ce que j'étais en train de dire. Moi je suis pour une limite et pour ne pas faire. Et donc, à un moment donné, on confronte les points de vue, mais à un moment donné, on va trancher. Quand j'ai dit momentanément, parce que je ne peux pas me projeter pour 100 ans, mais je dis au moins, à un moment donné, il y a une contradiction qui est analysée et on décide de ne pas faire. Et ne pas faire, c'est aussi un acte de liberté.
Le dernier point, c'est que lorsque vous dites on va trancher, le politique va trancher, l'intérêt pour moi, c'est sur quels critères, selon quelles valeurs, et par rapport à quelle perspective. Et c'est là où c'est une dimension politique et
Emmanuel,
pas une dimension éthique.
Hirsch, vous allez revenir, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter. Mais il le faut pourtant, puisque cette émission n'a qu'un temps, certes profond. Cette émission, en partenariat avec le quotidien du médecin, que nous avons intitulé « L'éthique pour tous », a été rendue possible grâce à la participation de Catherine Donnet, de Sandrine Chaperon, de Dany Journeau, de Nino Lima et d'Alain Joubert. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site internet franceculture.fr, les réécouter autant que vous le souhaitez, ou vous inscrire sur le podcast pour une écoute à la carte. À demain.